L'actualité francophone, le Canada confronté à la guerre commerciale déclarée par Donald Trump en France, la mondialisation au cœur du duel Macron-Le Pen avant le second tour de la présidentielle, la Belgique, la région Wallonne met en place des mesures de bonne gouvernance, en Suisse, fronde contre les bonus et les hauts salaires dans le secteur bancaire, et en Afrique, la crise au Burundi dure depuis 2 ans sans perspective d'issue diplomatique. D'abord, les personnalités de la semaine en Suisse, Pierre Anchoffin, un ministre très remarqué, Charles Juillard.
Devant son Parlement, ce ministre a eu des élans lyriques. « Vive le Jura, vive Moutier, ville jurassienne !» leur a-t-il lancé sous des applaudissements nourris. Car oui, dans la paisible Helvétie, il subsiste un conflit territorial. Le Jura a certes conquis son statut de canton à part entière depuis bientôt 40 ans, mais avec un goût d'inachevé pour les autonomistes, car le Jura bernois a, comme son nom l'indique, refusé la réunification. Mais en juin prochain, les 7000 habitants de Moutier ont l'ultime possibilité de dire s'ils veulent quitter Berne pour rejoindre le Jura, d'où les opérations de charme des autorités des deux cantons envers une cité qui ne s'est jamais sentie aussi convoitée.
En France, l'homme de la semaine, Étienne Cardil, diplomate, compagnon du policier Xavier Jugelet, assassiné lors de l'attentat sur les Champs-Élysées la semaine dernière, lors d'un hommage national rendu mardi en présence de François Hollande. Étienne Cardil prend la parole, la voix parfois entrecoupée de sanglots. Il dit sa douleur extrême, il dit souffrir sans haine, empruntant une formule à un homme dont l'épouse est morte dans l'attentat du Bataclan en novembre 2015. « Vous n'aurez pas ma haine ». Il conclut son discours ainsi, s'adressant à son compagnon. « Tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix ». La personnalité de la semaine en Belgique, Pierre-Yves Meugens, c'est le ministre des Affaires étrangères.
Didier Reynders face à l'opposition au Parlement. L'opposition qui l'accuse de ne pas avoir été claire quant à la position de la Belgique par rapport à l'adhésion de l'Arabie Saoudite à la Commission des droits des femmes de l'ONU. La Belgique fait-elle ou non partie des 5 pays européens qui ont voté pour ? Le vote est secret, la décision est intervenue en urgence de la part des diplomates à New York, mais le Premier ministre Charles Michel a regretté ce jeudi à la Chambre le vote de la Belgique en faveur de l'entrée de l'Arabie Saoudite. Didier Reynders lui propose une nouvelle manière de travailler à l'avenir.
L'Afrique, Anne Kantner, votre personnalité de la semaine pour RFI, c'est le journaliste camerounais Ahmed Abba.
Ahmed Abba, qui vient d'être condamné à 10 ans de prison pour blanchiment du produit d'un acte terroriste et non-dénonciation. D'abord caméraman, puis correspondant de RFI en langue haoussa. Il travaillait dans la région sensible de l'extrême nord du Cameroun, régulièrement visée par Boko Haram. Ce journaliste de 39 ans, discret, passe aujourd'hui ses journées en prison à lire et à boire du thé vert qu'il aime particulièrement en attendant son procès en appel.
Au Canada, la personne qui a retenu votre attention, Benoît Audet, c'est l'un des 14 candidats à la direction du Parti conservateur fédéral.
Oui, Kevin O'Leary, personnalité médiatique bien connue au Canada anglais, il a annoncé qu'il tirait sa révérence après avoir constaté qu'il n'avait pas assez d'appui au Québec. Kevin O'Leary est un unilingue anglophone qui habite la plupart du temps aux États-Unis. Il a décidé de donner son appui au député québécois Maxime Bernier, qui est maintenant vu comme le favori de cette course.
L'actualité en Belgique, le gouvernement régional wallon prend une série de mesures en matière de bonne gouvernance, Pierre-Yves Meugens.
Avec l'éthique au cœur de ces nouvelles mesures, des règles qui concernent les villes et communes ainsi que tous les organismes publics régionaux. Ce nouveau cadre renforcé fait suite à de récentes affaires, un scandale politique qui a touché le sud du pays et qui a entraîné de nombreux remous. C'est l'affaire Publifine, un scandale qui a éclaté en décembre dernier. Des élus étaient grassement rémunérés pour des réunions auxquelles ils ne participaient pas. Du coup, le gouvernement régional a décidé de faire le ménage. En clair, les élus locaux, les mandataires d'organismes publics devront déclarer tout leur mandat, toute leur rémunération, faire un rapport sur toutes leurs activités. Le mot-clé désormais, c'est la transparence. Les données seront accessibles à tous les citoyens. Il y aura aussi plus d'incompatibilité entre certains mandats, certains cumuls désormais impossibles. Paul Magnette, le ministre président wallon, a décidé de marquer le coup. Certains mandataires vont sentir passer la note à la fin du mois.
Ce sont des plafonds qui seront absolument stricts et qui prévoient tout. Il n'y aura plus de stock option, plus de parachute doré, plus de possibilité d'avoir à côté de sa rémunération encore une autre rémunération. C'est un plafond absolu qui s'applique à tous les contrats, y compris pour les gens qui sont déjà en place. Et donc certains vont perdre un tiers, la moitié, parfois les 2/3 de leur salaire d'aujourd'hui.
Il reste à voir si toutes ces mesures, parfois rétroactives, sont juridiquement tenables. A priori, elles seront adoptées cet été.
La France, le duel Macron-Le Pen pour le deuxième tour de la présidentielle. La France des oubliés, des classes malheureuses à voter Front National au premier tour, les périphéries rurales, les ouvriers. Et puis la France optimiste soutient Macron, les classes moyennes, diplômées dans les grandes villes. Chez nous, le clivage gagnant-perdant de la mondialisation se substitue à la division classique droite-gauche. Cette semaine, voici comment Marine Le Pen définissait son adversaire.
Emmanuel Macron est un banquier d'affaires. Et je pense qu'il avait toutes les qualités pour être un bon banquier d'affaires. Il a le caractère pour cela. Il a l'insensibilité qu'il faut à ce métier.
Et la réponse d'Emmanuel Macron.
Je n'ai pas des années de mandat électif et je ne suis pas un héritier politique. C'est ma différence avec, par exemple, Madame Le Pen, qui est dans le système politique depuis des décennies, qui est une héritière politique.
Temps fort de la campagne, mercredi, les deux candidats rendent visite aux salariés de l'usine Whirlpool. Damien menacé de fermeture pour cause de délocalisation en Pologne. Marine Le Pen, chaleureusement accueillie par des militants FN, opportunément convoqués, promet d'empêcher toute fermeture du site. Emmanuel Macron, arrivé après elle, affronte d'abord des cris hostiles, puis pendant une heure et demie, il dialogue avec les ouvriers et proclame « La réponse n'est pas la suppression de la mondialisation et la fermeture des frontières ». Quand il s'en va, des salariés grévistes lui serrent la main. Au Canada, la semaine a été marquée par les tensions commerciales avec les États-Unis. Washington préparait le terrain depuis quelque temps, mais là, maintenant, Benoît Audet, des mesures concrètes sont entrées en vigueur.
Oui, on en avait eu un aperçu la semaine dernière quand le président Donald Trump avait laissé entendre que le Canada agissait de façon malhonnête avec son industrie laitière. En début de semaine, les États-Unis ont lancé une autre attaque dans le dossier du bois d'œuvre qui est utilisé dans la construction. Les Américains ont imposé une surtaxe aux importations de bois du Canada. C'est un vieux dossier qui revient régulièrement, même si le Canada a remporté de nombreuses manches devant les tribunaux.
De façon plus générale, Benoît Audet, c'est tout l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui est remis en cause.
C'est une promesse de campagne de Donald Trump de renégocier cet accord qu'il juge désavantageux pour les Américains. Il a même menacé d'enclencher immédiatement le processus de retrait des États-Unis de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, mais le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réussi à calmer le jeu. On l'écoute.
On s'est mis tout à fait d'accord que l'ALENA peut toujours être amélioré. Ça a été amélioré une douzaine de fois depuis 20 ans. Nous allons s'asseoir pour regarder comment nous pouvons créer plus d'opportunités, plus de croissance économique, plus d'avantages pour les citoyens de nos deux pays.
Le Canada dit depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qu'il est prêt à renégocier. De toute façon, Ottawa n'a pas le choix. Les États-Unis sont, et de loin, le principal partenaire commercial du Canada.
La Suisse, Pierre Chauffat, la rémunération des dirigeants des grandes banques provoque de nouvelles crispations.
Oui, du côté de Crédit Suisse, cette fois la deuxième banque du pays. Après une année difficile, l'Assemblée générale des actionnaires a été très agitée. En cause, une rémunération qui peut paraître généreuse en regard des résultats. Et cette polémique agace prodigieusement Tidjian Kam, le patron de la banque.
Moi, je suis relativement peu impliqué dans toutes ces conversations. C'est pour ça que je pense que je ne suis pas nécessairement la bonne personne à qui poser toutes ces questions. Moi, je passe l'essentiel de mes journées à gérer la banque. Je ne détermine pas ma propre rémunération. J'ai un contrat de travail, même en tant que CEO, j'ai ce droit. Il y a des chiffres qui doivent être respectés, c'est l'état de droit.
Autrement dit, le grand patron n'aurait pas à porter la responsabilité des erreurs commises par ses prédécesseurs, sauf que face à la fronde, y compris du côté des investisseurs institutionnels, la direction a fait un geste en réduisant les bonus de 40%. Mais pour le professeur Didier Cossin, spécialiste en gouvernance, ce geste ne suffira pas à recréer la confiance face à des rémunérations sans doute incompréhensibles pour le commun des mortels.
Il y a quelque chose de légitime dans la question qui est derrière ce problème des inégalités. Pourquoi est-ce qu'on voit ces énormes écarts de revenus dans la société? C'est un monde déconnecté de la réalité du quotidien suisse. Et ça, c'est frappant. Il y a un besoin de ce côté-là de reconnecter.
La politique de rémunération de Crédit Suisse n'a d'ailleurs été validée que par 58% des voix, alors que les actionnaires sont plus coutumiers de scores staliniens. L'apport considérable du secteur financier à la prospérité de la Suisse ne paraît ainsi plus une condition suffisante pour susciter l'adhésion, d'autant que les citoyens qui ont approuvé l'initiative Minder contre les rémunérations abusives n'ont pas le sentiment que l'outil s'avère efficace.
En Afrique, Anne Cantner, ce qui retient l'attention, c'est le Burundi où la crise se poursuit depuis 2 ans maintenant.
Oui, tout avait commencé avec l'annonce de la candidature du président Nkurunziza pour un 3e mandat très contesté. Depuis, le Burundi s'isole de plus en plus. La plupart des voix dissonantes ont fui le pays. La pression est permanente, mais les violences sont moins importantes que pendant la première année de crise. On ne ramasse plus de cadavres dans les rues tous les matins, ce qui permet au gouvernement d'affirmer que la paix est revenue.
C'est la paix totale au Burundi. C'est une crise imaginaire, n'en déplaise aux détracteurs. Vraiment, aujourd'hui, la crise est derrière nous. Malheureusement, les séquelles sont toujours là et nous sommes en train de faire face à tout cela.
Cette version du premier vice-président du Burundi ne convainc pas. En un an, le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire a doublé. L'économie est en récession et le pays fait face à une grave épidémie de paludisme. Quant au calme relatif, il est surtout dû au climat de terreur que font régner le régime et la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure. C'est ce qu'explique Florent Gel de la FIDH.
On tue, on fait disparaître et on torture à l'abri des regards indiscrets. Et on dit que les choses vont mieux et sont sous contrôle. C'est effectivement la définition des régimes totalitaires, dictatoriaux et arbitraires. C'est malheureusement une réalité aujourd'hui au Burundi.
Une réalité qui risque de durer encore puisque le gouvernement burundais refuse toujours catégoriquement de dialoguer avec l'opposition en exil, malgré les pressions et les sanctions internationales.
Merci de nous avoir suivis. Notre site lesmediafrancophones.org. À la semaine prochaine.